te rappelles tes notes rapidement?
18 à la Géopo ESCP, 18 en philo, 17 en anglais, 17,2 en allemand.
Ton ChatGPT doit faire la prépa en même temps que toi.
Qu'en quelque sorte, l'IA devienne un prof particulier, dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans toutes les matières. Grosso modo, en ce qui concerne les attendus, la méthodologie, etc., le travail des profs ne peut pas être remplacé. Donc j'ai complètement lâché les deux langues pendant la deuxième année de prépa.
Juste complètement, c'est quoi? C'est 0 heure par semaine?
Zéro heure par semaine, et je faisais de la géopo en cours de vent.
Si en novembre, on avait demandé aux 40 élèves de la classe qui va majorer HEC cette année et il est parmi vous, ils auraient peut-être pas mis une pièce sur toi, quoi.
Non, je pense pas.
Ok.
Les résultats sont là.
Ah ouais?
Ouais.
Ok. Alors ça, c'est de l'happening comme on en fait pas souvent dans les paroles de prépa.
Vamos.
Je suis grand as.
Ouais.
Bon François, pour commencer, est-ce que j'ai le droit de te tutoyer ou...
Bah évidemment, évidemment.
Non, je plaisante, mais en tout cas, bon, merci beaucoup de venir jusqu'à nous. En plus, aujourd'hui, c'est les résultats d'admission, donc je sais même pas, enfin, ça va tomber super bientôt.
Incessamment sous peu, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc bon, on croise les doigts, mais a priori, ça devrait aller, puisque effectivement, t'as eu la chance, enfin la chance, je sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, de terminer premier aux écrits d'HEC. Et super content de te recevoir, déjà pour savoir un petit peu ton parcours, et puis aussi... Parce que tu as adopté des méthodes de travail qui sont assez particulières, atypiques, et je pense que ce sera super intéressant de revenir dessus, surtout que cet épisode il sera sans doute consommé aussi par beaucoup de lycéens qui sont un peu dans l'antichambre de la prépa, et forcément ça risque d'être intéressant pour eux. Je te laisse te présenter déjà.
Bah, salut Dimitri, hein, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très content d'être là. Donc, moi c'est François, j'ai 19 ans, je viens de finir mes deux années de prépa. J'étais au lycée Saint-Louis en maths appro HGG.
Ok.
Voilà.
Parfait, ça c'est ta vie, ton œuvre. Est-ce que tu peux nous... Alors, évidemment, d'habitude, je fais un peu dans l'ordre chronologique, mais tu sais quoi, j'ai envie de commencer peut-être par la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as ouvert, je sais plus quand c'était en juin, oui, en juin, les résultats d'admissibilité, et que tu as vu vraiment ce chiffre 1, tu vois, genre d'habitude, tu fais des top 1 sur Fortnite, et là, tu fais un top 1 HEC. Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'y attendais ou pas?
Je m'y attendais vraiment pas. Ça a été une grosse surprise pour tout le monde, mais pour moi encore plus, je pense. Donc, en voyant ce 1, ma état de choc, hein, en fait, on m'a même envoyé avant même que je ne le découvre par moi-même. Donc, j'ai d'abord cru au montage. Hein, je me suis dit, bon, ça y est, ils m'ont fait une blague.
Okay.
Et
après... Quoi, des potes de ta prépa?
Ouais, des potes de ma prépa. Okay. Ouais. Et franchement, très dur de réaliser, quoi. Sur le moment, je pense que ça m'a pris bien un jour pour pouvoir processer ce truc, etc. Mais ouais, hein, donc très grosse surprise, quoi. Voilà.
Ok. Donc, résultat d'admissibilité, c'était déjà une bonne surprise ou tu savais que ça allait le faire?
Alors, on va dire que je m'attendais à une admissibilité, mais pas du tout aussi bonne. Moi, je tablais sur un top 400, top 500, quelque chose comme ça.
Ok. Et donc, quelques jours plus tard, du coup, tu as eu tes notes de la BCE. Et là, t'as compris qu'est-ce qui... Est-ce que t'es juste que t'as été bon partout? Est-ce que t'as vraiment surperf sur quelques notes? Qu'est-ce qui a fait la différence?
Je dirais que c'était surtout de la polyvalence, parce que pour les notes HEC, j'ai pas eu en dessous de 17. Donc forcément, ça m'a mis très bien.
17 et 20 à toutes les épreuves. Entre 17 et 20 à toutes les épreuves.
Exactement, ouais.
Ok.
Ouais. Et ensuite, bon bah, il y a eu quelques bonnes surprises, hein, mais globalement, je dirais que c'est plutôt de la polyvalence avec de très bonnes notes partout.
Ok. Et tu te rappelles tes notes rapidement?
Ouais, bah donc à HEC, double 20 en maths. Ensuite, 18 à la Géopo ESCP, 18 en philo, 17 en anglais, 17,2 en allemand et 17 à la synthèse.
Ok, ouais, c'est ça, ouais, donc c'est clinique, quoi. Ça te fait une moyenne de combien? Surtout qu'en plus, les notes sont plus coefficientées en maths, donc...
18,35 et avec le point bonus, 19,35.
Ok.
Les résultats sont là.
Ah ouais,
ouais.
Ok, putain. Bon bah coupure de... Enfin non, vas-y, coupe pas, t'inquiète, c'est pas grave, on va les découvrir en direct. Hein. On est en train de parler de tes écrits. Alors ça c'est de l'happening comme on en fait pas souvent dans les paroles de prépa.
73, franchement ça va.
Ok.
On est assuré.
Ok. Alléluia.
Vamos.
Je suis grand as.
Ouais, je suis content là.
Ok.
Ça régale.
Putain,
c'est refus d'intégrer.
T'as pas tes notes encore par contre?
Non, j'ai pas eu les notes encore. Ils disent demain matin.
Ok, mais ça veut dire, alors du coup t'as pas surperf de ouf par rapport aux écrits.
Non.
Mais... Comme les oraux sont plus coefficientés que les écrits, ça veut dire quand même que t'as eu des notes très solides à l'oral, probablement.
Sans doute, ouais. Ouais, sans doute.
Okay. Bon, ça méritera d'être creusé, on fera un petit edit à la vidéo. Attends, Violette, tu veux qu'on te rende ton ordinateur, non?
Non, merci. Bon, je suis refait, là. Yes.
J'avoue, Violette, elle est HEC en plus, tu la verras. Mais donc, ouais, ouais, ça veut dire que t'as quand même t'as fait des vraies notes aussi à l'oral, quoi. On verra, on fera un petit edit, comme je disais, ouais. Avec du coup tes notes de l'oral. Puisqu'on a eu tes notes de l'écrit, au moins c'est bien, ça va, ouais. Ça élude le sujet pour la suite. Mais ok, bah bravo, ouais.
Merci beaucoup. Hein.
C'est rare qu'en plein podcast, je dise à quelqu'un bravo pour ton intégration à HEC, mais comme quoi, tout est possible. Donc, je reviens aux questions. Je voulais te demander, du coup, comment t'as vécu tes oraux? Bah, justement, ça fera la transition avec ce qu'on vient de vivre. C'est super dur de se motiver quand tu sais quasiment qu'en fait tu vas être admis, non?
C'était assez dur, d'autant qu'en fait je savais dès la deuxième année que j'allais avoir du mal à me remettre dans un esprit un peu guerrier, etc. Pour les oraux, ce que je me disais pour me motiver, c'était qu'il fallait que je défende le titre. Après, évidemment, il y avait de la pression en moi. Et parfois, la pression peut jouer un rôle assez bénéfique. Avec une sorte de stress positif, une bonne adrénaline, quoi. Après, ouais. Bon, je me suis motivé en me disant que dans tous les cas, bah, fallait travailler sérieusement, que c'était HEC, que les oraux c'était très dur. Et en plus de ça, je voulais finir la prépa vraiment en étant à mon apogée au niveau des connaissances, en tout cas, et de la culture G. Donc, je me suis déter, j'ai fait de la géopo, un peu de CG, quoi, pour bien réviser les oraux.
Oui, de toute façon, la majorité de la préparation, elle se situe en amont des résultats d'admissibilité.
Oui.
Donc, jusqu'au, je sais plus quel jour, mais tu savais pas, en fait, que t'allais finir top 1 et que, du coup, a priori, les oraux seraient plus une formalité.
Ouais.
Et les oraux en tant que tels, est-ce que les gens t'avaient estampillé comme le major d'HEC ou t'as réussi à passer un peu incognito?
Bah, moi, je ne le disais pas aux gens spontanément. En revanche, donc, on avait des admisseuses qui étaient à Saint-Louis et qui l'avaient dit aux admisseurs. Donc, bon, les admisseurs savaient que j'étais major des écrits. En revanche, au niveau des admissibles, non, je pense pas.
Ok, c'est passé comme lettre à la poste.
Ouais,
très bien. T'as fait quelle session?
Deux.
Ok, ouais, ça va, t'as eu le temps de processer un peu la chose. Ok, ouais. Donc ouais, tu l'as dit, t'étais à Saint-Louis justement. Enfin, je pense que c'est peut-être le plus intéressant aussi, une fois qu'on a dit que t'es major, c'est la manière dont t'as vécu ta prépa, parce que je pense que ça a été assez atypique et que ça peut être très éclairant pour beaucoup d'étudiants. Déjà, est-ce que tu peux commencer par expliquer quel lycéen t'étais, dans quel milieu t'as grandi, et est-ce que la prépa pour toi était une évidence ou pas du tout?
Donc, j'ai grandi dans le 7e, mes deux parents habitent là-bas, donc j'étais dans un lycée public du 7e à Victor-Duruy. Au lycée, je travaillais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'intérêt pour les cours, donc je faisais le minimum, je révisais la veille pour le lendemain, et j'assurais, on va dire, des notes décentes, mais rien de brillant, parce que bon, vraiment, j'arrivais pas à me motiver, quoi, ça m'intéressait pas.
Tu majorais pas ta classe, quoi?
Ah non, clairement pas. Si on me rentre dans les moyennes, je devais tourner à 16 en première, 17 en terme, parce que je me suis mis à un peu plus bosser. Je savais qu'il y avait Parcoursup. Et donc, en ce qui concerne la prépa, il y a pas mal de gens dans ma famille quand même qui avaient fait une prépa, dont mon oncle qui avait fait une prépa à HEC. Donc, il m'avait expliqué un peu en quoi ça consistait. Donc, bon, après, j'en savais pas non plus grand-chose. Je savais que c'était assez challengeant. Intellectuellement, qu'il fallait beaucoup bosser, mais on m'avait aussi dit donc que c'était bon bah la voie royale pour intégrer les grandes écoles de management. Et moi, c'est vraiment ce qui me motivait, c'est parce que je savais que j'étais intéressé par les métiers un peu auxquels elles donnaient accès. J'ai affiné mon projet au fil du temps. Maintenant, je voudrais être plus focus sur entrepreneuriat. Mais donc, je dirais qu'à partir de la première environ, j'ai su que je voulais faire une prépa pour intégrer les grandes écoles de management. Et en plus de ça, j'avais cette envie de me challenger intellectuellement, de me donner un vrai objectif, de pouvoir donner le meilleur de moi-même à l'école, ce que je ne faisais pas au lycée.
Ok, donc en fait, le manque d'intérêt au lycée, c'est plutôt que tu trouvais les cours relativement peu intéressants et que tu t'es dit quand le niveau va s'élever et la complexité aussi, bah je vais me prendre au jeu et ça va le faire. Parce qu'a priori, si t'aimes pas les cours du lycée, la prépa, c'est le lycée en plus dur en quelque sorte.
C'était pas les cours en soi, je pense que c'était d'avoir davantage la manière dont c'était enseigné. Peut-être, quand je suis arrivé en prépa, j'ai pu constater la différence de niveau qui est juste stratosphérique entre les profs de prépa et les profs de lycée. Et il y a des cours qui sont juste super intéressants. Moi, j'ai développé une vraie passion pour la géopo, par exemple. Ouais. Alors qu'au lycée, ça m'intéressait pas tant que ça, parce que je pense que la manière dont c'était enseigné aussi n'arrivait pas à me captiver.
C'est quoi, t'avais AGGSP du coup comme SP?
J'avais maths, AGGSP, SES en première, et ouais, j'ai lâché AGGSP en terme.
Ok, ouais, donc t'avais vraiment un profil de pur prépa ECG taillé pour ça. Ok. Et Alors, comment s'est passé le choix de ta prépa? Où est-ce que tu as été pris, pas pris? Et je te pose cette question parce qu'il y a une anecdote que tu m'as racontée tout à l'heure qui m'a fait beaucoup rire et je pense qu'elle sera intéressante à ce micro.
Donc, pour le choix de ma prépa, donc j'avais à peu près 17 en termes, plutôt de bonnes notes au bac. Donc, je me suis dit que je n'allais pas me censurer, hein, j'allais mettre les meilleures prépas. Mais il y en avait une qui m'intéressait plus que les autres, c'était Saint-Louis. Parce que d'une part, j'avais eu l'occasion d'échanger avec d'anciens élèves et j'avais eu de très bons échos de cette prépa. Ils m'avaient dit qu'il y avait une bonne ambiance, que c'était en plus une prépa de très bon niveau. Et en plus de ça, ouais, donc là, la petite anecdote marrante. Déjà, j'avais vu passer sur Major Prépa des vidéos du prof de Géopo, Frédéric Munier. Donc,
le GOAT de la chaîne.
Okay. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion de prendre un verre avec lui. Et là, il a vraiment achevé de me convaincre. Je savais que je voulais faire Saint-Louis, que c'était mon objectif. Et j'ai fini par l'avoir. J'ai mis un peu de temps à l'avoir dans Parcoursup. Pour te dire, je crois que à Henri IV, j'ai été pris assez rapidement en maths ESH. Mais j'allais pas avoir maths HGG, pareil, pas pris à Louis le Grand, ni à Stan, je pense. Je crois que j'avais eu Hoche aussi, peut-être Grand Champ, ça je me souviens plus très bien. Mais donc, à peu près pour situer.
Okay. Niveau, etc. Ouais, ça. Donc, pour moi, il y a deux trucs intéressants. C'est un, que du coup, t'avais pas l'archétype du profil du major HEC qui éclate le lycée depuis toujours,
ouais,
quoi.
Clairement pas.
Donc, tu vois, t'as même pas demandé Ginette, j'imagine, ou si t'as demandé,
Je crois, mais j'avais pas très envie d'y aller, pour être honnête.
Ouais, ok. Bon, après, c'est un peu particulier, ouais. Effectivement, mais en tout cas, t'avais pas non plus 20 de moyenne partout. Ouais. Et le truc sur l'anecdote, je trouve, de Munier, c'est... Alors, Frédéric, bon, c'est peut-être pas l'exemple du prof lambda en prépa, mais c'est aussi le niveau de dévotion de certains profs qui prennent le temps de rencontrer des élèves ou des futurs élèves, de leur expliquer la chose. Et enfin, Frédéric, pour bien le connaître maintenant, je sais qu'il est... Enfin, il l'a fait avec plein d'autres étudiants. Et même des étudiants qui sont passés par Saint-Louis et qui maintenant sont en école et continuent de les voir, d'échanger avec eux. Enfin, tu vois, je trouve que c'est pas que un métier, en fait. Quand t'es prof de prépa, t'acceptes d'avoir dans ta classe des étudiants pendant 2 ans qui, entre guillemets, jouent leur vie, je mets des grosses guillemets. Et donc, forcément, tu dois être à un niveau d'intensité et de dévotion vis-à-vis d'eux qui est juste incroyable, quoi. Donc, voilà, Frédéric, je pense que tu regarderas cette vidéo, forcément. je sais pas si tu veux lui faire une petite dédicace comme à Skyrock, mais.
Monsieur Munier, merci beaucoup pour tous vos cours. Franchement, c'était extrêmement intéressant. Votre niveau de dévotion était très appréciable, très impressionnant. Et c'est en grande partie, je pense, grâce à vous que notre classe a pu bien réussir. Hein, parce qu'on a eu de beaux résultats cette année. Donc vraiment, merci beaucoup et je vous embrasse.
Ouais, tu peux lui dire je vous embrasse maintenant. Ok, et donc... Bon, donc on a compris un peu le concept, enfin le principe. T'étais un bon élève sans être absolument exceptionnel. Tu sentais que t'en avais un peu sous la pédale. Quand t'arrives en septembre, est-ce que t'es average dans la classe? Est-ce que t'es déjà très fort? Est-ce que tu te sens comme les autres, en décalage? Comment tu expérimentes ces premiers jours, ces premières semaines à Saint-Louis?
Je m'attendais à ce que ce soit difficile parce que j'avais pratiquement rien fait pendant l'été. J'avais vraiment, je m'étais dit que je ne travaillais pas trop au lycée, etc. Que justement, je m'en gardais sous la pédale pour tout donner en prépa. Premier concours blanc, ça doit être vers novembre, quelque chose comme ça. Je pense que c'est le premier moment un peu classant. On peut se rendre compte vraiment de son niveau. J'ai fait top 10, donc j'étais pas mauvais. Hein. J'étais, on va dire, plutôt bon, assez polyvalent, mais clairement, j'étais pas le plus brillant. Je pense que dans toutes les matières, il y avait des gens qui étaient meilleurs que moi. En langue, il y avait des gens qui étaient bilingues. En maths, il y en a qui avaient beaucoup plus d'intuition que moi. En géopo, en CG, il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de bagages. Donc, je le sentais, mais je me disais que je pensais avoir une bonne marge de progression dans à peu près toutes ces matières.
Ok, ouais, donc ta force était ta polyvalence. T'avais pas un gros trou dans la raquette. Mais si en novembre, on avait demandé aux 40 élèves de la classe qui va majorer HEC cette année et il est parmi vous... Ils auraient peut-être pas mis une pièce sur toi, quoi.
Non, je pense pas.
Ok. Donc, qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence? Quand est-ce que t'as... Alors, évidemment, il faut être lucide. Si on avait passé les concours 100 fois, peut-être que t'aurais pas été 100 fois major. Mais tu l'as été au moins une fois et c'est déjà assez incroyable. Et puis, c'était la bonne. Donc, pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Quand est-ce que... Parce que ce que tu m'expliquais aussi, justement, c'est que tes méthodes étaient sans doute un peu différentes. Quand est-ce que tu t'es un peu départi du reste de la classe?
Au cours de la première année, j'ai vraiment senti une différence assez nette, parce que j'ai fini la première année, donc au deuxième concours blanc vers juin, en majorant cette fois-ci. Et c'est grâce aux méthodes que j'ai mises en place. Donc, j'ai commencé à être dans une optique beaucoup plus rationnelle de la prépa. Bien que il y ait tout de même une différence entre la première et la deuxième année, hein, on pourra revenir dessus si tu veux, mais la première année, c'est certes l'occasion d'assouvir sa curiosité intellectuelle. Ça, c'était un grand plaisir pour moi, vraiment très intéressant. Mais dans le même temps, j'ai senti que pour progresser, il allait falloir que je sois vraiment très rationnel. Donc, chercher à optimiser le temps que je consacrais à chaque matière. C'est-à-dire que je me suis posé, je me suis dit, bon, bah, t'as un an et demi avant les écrits. Quels sont tes points forts, quelles sont tes faiblesses comparativement au reste de la classe, quelle feuille de route est-ce que tu peux essayer d'adopter pour arriver donc le jour J, hein, le jour des écrits, à être le meilleur dans chaque matière et à réfléchir au temps que je consacrais, que j'allais allouer un peu à chaque matière. Donc en première année, j'ai pas mal progressé en langue et en maths. Je dirais que c'est les matières où j'ai fait le plus de progrès.
Ok. Et si on va un peu dans le détail, qu'est-ce qui... Tu parles de ces fameuses méthodes, donc autant rentrer vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que c'était les mêmes pour toutes les matières, ou est-ce qu'il y avait une différence? Est-ce qu'il y avait une espèce de dénominateur commun dans tout ça? Comment tu les as aussi un peu éprouvées, justement, ces méthodes-là?
Donc, j'ai commencé par la fin, mais la manière dont je les ai éprouvées, c'est en expérimentant, en testant celles qui fonctionnaient pour moi, parce que j'avais pu lire, hein, il y en avait pas mal qui circulent, mais je pense que ce qui est important, il y a des méthodes un peu universelles, mais ensuite c'est d'adapter, de trouver vraiment ce qui nous correspond. Donc si je rentre dans le détail, je travaillais pas du tout les matières de la même manière, même s'il y avait un dénominateur commun qui était Anki, clairement ça c'est, je l'ai utilisé dans toutes les matières pour la mémorisation, je pense que c'est pratiquement ce qu'il y a de mieux. Sinon, donc, j'ai assez vite mis l'accent sur les maths, parce que c'est la matière la plus importante, ouais. Surtout en maths à pro, vu les coefs impressionnants. J'en ai fait beaucoup. L'essentiel, c'était de bétonner le cours. Ça, c'était vraiment la base, le fondement. Ensuite, j'ai davantage travaillé les exos classiques qui revenaient. Je cherchais pas forcément à en faire un maximum, mais quitte à diminuer, à en faire moins et à les maîtriser parfaitement et à être capable de les faire assez rapidement. En langue, à l'origine, donc en première année, j'avais pas encore mis au point de méthodes extrêmement efficaces. Ça, je l'ai fait davantage pendant les vacances et en deuxième année, les vacances d'été. Mais globalement, j'ai cherché à améliorer la grammaire, parce que c'est vraiment... La condition sine qua non si on espère avoir une bonne note. Après, du lexique aussi, mais ça, c'est un peu plus secondaire, je dirais, quand même, par rapport à la grammaire. Évidemment, ce qu'il faut faire dans toutes les matières, c'est la méthodologie. Parce que, bon, en un an et demi, on a vraiment le temps d'aller deep dans la méthodologie, de regarder des bonnes copies, de prendre tous les conseils de nos profs très au sérieux, de les appliquer, également de regarder les rapports de jury et se familiariser avec la méthodo. Je pense que c'est pratiquement une des choses les plus importantes à faire en première année.
Ouais, c'est vrai que je crois qu'en prépa, tu dois travailler peut-être 2-3 000 heures au total. Je crois que c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et le pourcentage de temps consacré à la méthodologie et à comprendre intrinsèquement la méta des épreuves, en fait, elle est très très faible, en tout cas pour la plupart des candidats. Et je pense que ça, c'est un facteur parmi d'autres qui explique cette réussite-là. Et ce que tu me disais tout à l'heure, parce qu'on a déjeuné ensemble, on a eu pas mal l'occasion de pas débriefer, mais débriefer a priori en tout cas l'épisode, c'est que tu as réussi aussi à prendre du recul et à te dire en fait la note du DS du samedi n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est les concours. Je pense que ça, c'est important de le préciser parce que c'est relativement contre-intuitif, je trouve, que quand tu rentres en prépa en tout cas.
Ouais, je pense que il faut vraiment complètement déconstruire toutes les méthodes qu'on avait appliquées au lycée. Qui sont assez néfastes, hein, c'est-à-dire le fait d'apprendre la veille pour le lendemain, de travailler sur du très court terme, alors que bon, si on fait ça en prépa, en fait, on va droit dans le mur. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je ne travaille pas pour un ES, une colle, ou même un concours blanc. Je travaille avec cet objectif des concours dans un an et demi. Et oui, ça impliquait parfois de se prendre quelques tôles, parce que j'allais pas réviser, en particulier pour un DS. Et donc, si tel sujet tombait, bon bah là, effectivement, j'étais dans la merde, quoi. Ouais. Mais je pensais... La prépa, c'est fait pour durer un an et demi, et il faut réussir à opérer un peu ce changement de mentalité, de passer d'une mentalité lycée à une mentalité prépa, pour maximiser, je pense, les résultats.
Et comment psychologiquement tu as réussi à gérer cette relative autonomie? Parce que ça veut dire que tu travailles beaucoup, peut-être même plus que la moyenne, et relativement à la classe, tes résultats sont pas non plus exceptionnels, et en tout cas pas à la hauteur des investissements que tu as, quoi. Sur le court terme, je veux dire.
Faut accepter un peu de se détacher de la note, de se dire que c'est pas forcément ça ne reflète pas forcément notre niveau actuel, étant donné qu'on travaille sur le long terme. Donc je savais qu'il y en a qui allaient se tuer à la tâche juste pour un DS, mais qui allaient négliger toute la préparation beaucoup plus sur le long terme. Pour donner un exemple assez concret, moi en deuxième année, je sais pas, vers novembre pratiquement, j'avais déjà fini des fiches pour les oraux en langue. Donc forcément, moi, mon niveau, j'ai même régressé en fait en langue au cours de la deuxième année, j'expliquerai pourquoi. Mais bon, ça me dérangeait pas. Je savais que le jour du concours, j'allais mettre le coup de boost nécessaire pour avoir une suffisamment bonne note, quoi.
Ok. Et l'autre, le corollaire de tout ça, c'est que tu t'es un peu autonomisé de la classe, dans le sens où t'avançais plus exactement au même rythme, voire t'écoutais très vite fait en cours, voire t'allais pas trop en colle. Est-ce que tu peux nous parler de ça et toutes les conséquences que ça a pu avoir?
Ouais, donc j'étais très tourné vers l'efficacité. Ce qui m'énervait par-dessus tout, c'était de perdre du temps en cours. Parce que là, j'avais vraiment le sentiment que, étant donné qu'on avait à peu près 40 heures de cours au total, je perdais vraiment beaucoup de temps à ce moment-là. Donc j'ai essayé de rendre ça tout plus efficient. En colle, parfois, on nous proposait des choses un peu délirantes, c'est-à-dire de lire un livre très long et ensuite de faire une colle uniquement sur ce livre, ce qui représente, je sais pas, peut-être 20 heures de travail, alors qu'en soi, en le faisant résumer par ChatGPT, en lisant des analyses, etc., on peut boucler le même travail en une heure. Donc on ne pouvait pas le faire, j'ai séché des colles comme ça, ou en tout cas les colles qui ne correspondaient pas aux épreuves des concours, parce que là je trouvais qu'il y avait quand même pas beaucoup de sens à ne pas s'entraîner en fait pour les conditions du jour J. En ce qui concerne l'autonomie, oui effectivement. Donc par exemple en géopo, j'ai cherché à avoir de l'avance sur le programme. Ce que je faisais, c'est que je fichais mes cours de géopo pratiquement dans chaque matière en cours. C'était assez chronophage en fait de ficher, ça prenait pas mal de temps, même si j'avais développé quelques strates pour aller plus vite, notamment avec ChatGPT. Et en géopo, donc j'avais, je sais pas, déjà à peu près une ou deux semaines d'avance sur le programme. Ce qui fait que donc j'écoutais le cours et dès qu'il y avait une plus-value par rapport au PowerPoint, quelque chose qui n'avait pas été dit ou une explication dont j'avais besoin parce que j'ai pas saisi tel ou tel point précis. Bon bah là je la notais, j'avais plusieurs onglets en même temps et par contre pendant le reste du temps j'avançais. Je faisais le chapitre d'après quoi.
Ok, mais parce que en géopo par exemple vous avez les slides à l'avance.
Ouais.
Donc tu fichais les cours de Frédéric, enfin les slides de Frédéric et du coup t'écoutais pas son cours ou juste d'une oreille et quand il y avait un truc vraiment intéressant machin tu le marquais mais t'avais de l'avance parce qu'ils vous avaient déjà donné, je sais pas, ils faisaient l'Europe, t'avais déjà le chapitre sur l'Afrique et t'étais en train de bosser dessus, quoi.
À peu près, ouais, c'est ça. Après, je dirais pas que j'écoutais d'une oreille, mais j'arrivais à afficher tout en étant relativement concentré sur le cours et en pouvant vraiment distinguer ce qui allait m'apporter quelque chose que je n'avais pas forcément saisi avant.
Ok. Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu le piège de ces matières-là. Et moi, je pense que je suis totalement tombé dedans. C'est que c'est passionnant. Et donc, en fait, t'as envie de « Ah, mais attends, il y a ça, mais alors du coup, qu'est-ce que ça implique ? Ah, mais est-ce que je pourrais pas aller plus loin, etc. » Et tu finis par emmagasiner une quantité de connaissances, alors que in fine, tu vas en recracher 20, une vingtaine, une par paragraphe, on va dire, même pas pendant tes dissertations, quoi. Donc en fait, il faut être beaucoup plus méthodique de ce point de vue-là. Moi, c'est vraiment ce que j'ai compris. Et surtout, moi, je l'ai vu quand j'ai constaté, à la fin de la deuxième année, l'écart abyssal entre mes notes en colle, où l'école, il y a plus, je pense, d'une notion d'érudition, et mes notes en DS où en fait j'avais pas bien compris la dissertation et surtout j'avais pas utilisé efficacement ces connaissances pour les transformer en exemple vraiment pertinent pour la dissert. Je trouve que c'est totalement l'écueil que j'ai commis et que t'as visiblement pas commis quoi. Mais du coup hyper concrètement par exemple pour la géopo, je pense c'est à peu près la même chose en CG, en ESH pour les matières à dissertation. C'est quoi ton conseil? Comment tu vois quelles informations sont importantes, lesquelles le sont moins et surtout comment t'arrives à les matricer en quelque sorte, à les mettre dans des cases qui te permettent ensuite de les restituer efficacement pendant le DS.
Alors, pour ce qui est important, ça justement, c'est quelque chose que je pouvais sentir quand le prof en parlait, parce que bon, il mettait beaucoup plus l'accent sur telle ou telle info, et même si je fichais en même temps, bon bah j'allais surligner tel truc, etc. Mais effectivement, ensuite, la question des exemples est assez importante pour les écrits. Il y a un truc qui est assez important, c'est d'avoir uniquement un exemple pour illustrer une idée ou un concept, et de ne pas se perdre dans une multitude d'exemples, d'en prendre trois. Mieux vaut en avoir un bien détaillé avec chiffres, dirigeants, dates. Et en fait, la grosse, un point clé, c'est qu'on a quand même un an et demi pour se préparer aux écrits qui sont très différents des oraux, puisque les écrits, on choisit ce qu'on va mettre. Très concrètement, s'il y a un point, bon, il faut pas qu'il soit central, mais qu'on maîtrise pas très bien en géopolitique, par exemple, un exemple.
On peut l'éluder, quoi.
Soit on l'élude, soit carrément on n'en parle pas et on met autre chose. En langue, s'il y a une structure qu'on sait pas employer, personne ne va nous forcer à la mettre, personne ne va nous cuisiner sur tel ou tel point de CV qu'on maîtrise pas. Et donc, on va vraiment pouvoir, optimiser et chercher à presque avoir des idées, des exemples et déjà se dire, bon, bah, je vais recracher cet exemple avec cette idée. Et en préparant ça, donc on est beaucoup plus efficace. Après, c'est moins vrai pour les autres.
Donc, je comprends bien. Ça, c'est la théorie. Et du coup, d'un point de vue pratique, comment tu arrives à structurer tout ça et à faire en sorte de l'emmagasiner au mieux? J'ai l'impression qu'il y avait vraiment deux mots d'ordre, en fait, enfin, deux outils qui ont été décisifs. C'est Anki d'une part et ChatGPT d'autre part. Donc, c'est peut-être une partie de la réponse, mais voilà, enfin, je te laisse du coup nous expliquer comment tu faisais, toi.
Donc, en ce qui concerne la mémorisation, Anki, c'est vraiment génial parce que pour apprendre des dates, des chiffres, des faits précis, des dirigeants, ça va être très compliqué. Même on aura beau relire le cours autant de fois qu'on veut, ça risque de pas rentrer facilement et c'est beaucoup trop chronophage de passer son temps à lire le cours. Ce qui fait qu'en faisant des flashcards, ça va être le truc est quand même modélisé sur l'évolution de notre mémoire. Et donc c'est très optimal. Et moi j'utilisais dans toutes les matières, hein, je faisais tout mon lexique, les expressions que je voulais réutiliser en langue. En maths, on met un screenshot et ça nous fait la flashcard aussi. En géopo, bon bah là c'est aussi assez simple d'usage. Et même en philo, enfin en CG, c'était vraiment utile.
Ok, donc tu utilisais en fait toutes les matières sans exception finalement, à part la synthèse.
Ouais, c'est ça.
Ok, d'accord. Donc chaque usage, y compris les maths, parce que c'est un peu un débat. Je sais que Mathieu, le major de l'année dernière, en tout cas le vice-major, je crois, parce qu'il a fini premier écrit, deuxième oral, dans ces eaux-là en tout cas. Lui, ce qu'il disait, c'est que Anki, ça a vraiment été décisif. Et en même temps, il est rentré il y a un an à une époque où ChatGPT était peut-être pas aussi puissant que toi, ce que tu as pu expérimenter en deuxième année. Mais lui, c'était un peu la limite. Il disait les maths, peut-être à petite dose. Toi, même pour les maths, Anki a été vraiment décisif.
Pour moi, c'est complémentaire. Le socle, c'est l'apprentissage du cours vraiment avec notre livret, quoi. Mais ça va nous rappeler, par exemple, si on a trois flashcards d'un même cours, donc de propriété dont on ne se souvient plus, c'est peut-être le signe qu'il va falloir se replonger dans le chapitre et le reprendre entièrement. Et pour le coup, il n'y a pas un nombre démesuré de flashcards, alors même que moi, je mettais aussi quelques résultats légèrement hors programme, un peu complémentaire, utile à l'écrit quand on a bien avancé en maths HEC ou même aux oraux. Et la charge de travail n'est vraiment pas délirante avec Anki en maths. Et moi, je pense que c'est quand même utile.
Ok, mais est-ce que tu mettais vraiment des purs points de cours ou est-ce que tu mettais plutôt des astuces de résolution qui tombent fréquemment? Je sais pas, par exemple, ok, tu dois démontrer que exponentielle de x est supérieure à x plus 1 pour r. Tu peux le faire via la convexité, donc hop, ta flashcard, c'est ça, c'est dire, ok, si un jour je tombe sur cette question, plutôt que de faire une étude de fonction, l'astuce, c'est la convexité. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est purement cours ou est-ce que c'est...
Les deux.
Les deux. Tu faisais les deux. Ok. Donc, Géopo, donc ça, c'est pour Anki.
Ouais.
Et du coup, l'IA, comment ça venait compléter tout ça?
J'ai vu assez vite que l'IA se développait à une vitesse juste extrêmement rapide, avec des progrès très sensibles. Donc quand j'ai commencé à utiliser, c'était pas encore exceptionnel. En tout début de première année, il pouvait encore se tromper, etc. Mais bon, en l'espace de quelques mois, ça se perfectionnait, mais c'était vraiment sensible. C'était très très manifeste. Ce qui fait que j'ai voulu essayer d'apprendre à l'utiliser dans toutes les matières. Simplement, il a fallu faire des distinctions de cas, hein, et des matières où c'est très facile d'accès et d'autres où ça demande un peu plus de réflexion. Mais globalement, pour moi, ce qui est assez important, c'est d'être très précis dans les prompts et dans ce qu'on va dire à l'IA pour personnaliser l'expérience. Qu'en quelque sorte, l'IA devienne un prof particulier, dispo 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans toutes les matières. Et l'important, c'est d'expliquer tout d'abord ce en quoi consiste la prépa. Ensuite, quels sont nos points forts, nos faiblesses, et matière par matière, ce que je faisais, c'est que je lui mettais le programme, des rapports de jury, et par exemple en géopo, je pouvais lui expliquer aussi quelques plans types ou des choses comme ça. Ce qui fait que, au lieu de me sortir un truc complètement bateau, là, ça commence à devenir très très puissant comme outil. Si tu veux, je peux te dire
quoi. Ouais, totalement. Mais en tout cas, le point super important, c'est que, enfin, ce que tu dis, en fait, c'est qu'il faut pas se log out et revenir à chaque fois sur ChatGPT. Il faut vraiment que petit à petit, en fait, ton ChatGPT doit faire la prépa en même temps que toi, en quelque sorte.
Exactement.
Ok, ouais. Ouais. Donc il a glow up avec toi, en quelque sorte.
Ouais, on peut dire ça. Okay. En fait, il y a un truc important, c'est qu'il va mettre éléments mémorisés mis à jour. Il le fait pas forcément automatiquement, mais on peut le forcer à le faire si on veut. Et c'est ça qui va faire que donc il va emmagasiner en mémoire tous les prompts qu'on lui aura donnés. Bon, on peut même avoir un prompt par matière, ça on peut faire ce qu'on veut, mais globalement il va retenir en fait. Et okay. C'est là où ça va devenir vraiment puissant, parce qu'il va très bien nous connaître, il va pouvoir nous aider à gommer toutes nos erreurs ou au contraire à appuyer sur nos points forts, mieux que quiconque en fait ne pourrait nous aider à le faire.
Ok. Et donc t'avais la version payante, toi?
Ouais.
Qu'est-ce que ça a apporté de plus?
Concrètement, j'avais un nombre de requêtes limité en ayant ChatGPT en version gratuite et je pouvais pas coller suffisamment de photos. Et comme j'utilisais un rythme vraiment très important, peut-être 50-100 requêtes par jour, j'avais besoin, ça me bridait vraiment en fait de l'avoir en version gratuite. Et en plus de ça, j'ai même pu arrêter en fait, je prenais des cours particuliers à un moment en maths, j'ai même pu arrêter les cours particuliers grâce à ChatGPT. Donc au final, l'investissement était assez rentable.
Ok, oui, bah oui, carrément. Enfin, ouais. Je veux dire, c'est quoi, c'est 20 balles par mois, c'est ça?
25, je crois, ouais.
Ouais, voilà, donc par rapport à, je crois, une heure de cours part, c'est le minimum, je sais pas combien tu payais, mais c'est entre 50 et 100 en général en prépa. Donc, ouais. Bon, en fait, tu l'as rentabilisé en, en une demi-heure, quoi.
D'accord.
Oui, ok, d'accord. Ok, donc très clair. Ouais, donc pas débat là-dessus. Et donc, ouais, ça t'a même permis de te passer de cours particuliers. Enfin, c'est ce que tu disais, hein, l'IA devient un prof particulier. C'est pas juste une image, c'est vraiment, enfin, toi, t'estimes qu'une heure à passer avec ChatGPT, c'est plus efficace qu'une heure avec un gars d'HEC qui a eu 18 ans en maths HEC?
Concrètement, je pense que sur cette heure-là, le gars d'HEC va peut-être pouvoir nous expliquer des choses d'un point de vue d'un étudiant qui a déjà passé les concours. Et donc ça, c'est appréciable. En revanche, le truc, c'est que moi, quand je prenais des cours, j'en avais à peu près une fois par semaine, ce qui faisait que j'accumulais des questions. Ça pouvait être une trentaine de questions, etc.
Ouais.
Et je devais à chaque fois me replonger dans tel ou tel exercice, me remettre dans l'exercice, et je perdais un temps dingue en faisant ça. Ce qui fait qu'en utilisant ChatGPT, dès que j'avais une question, je lui posais et j'avais ma réponse à ce moment précis. Et grâce à ça, il y avait un gros gain de temps. En maths, ça m'a quand même demandé pas mal de tâtonnements pour arriver à l'utiliser, parce que je pense que c'est peut-être la matière la plus tricky pour laquelle utiliser ChatGPT. Il faut vraiment qu'il comprenne quel programme, quels sont les théorèmes à notre disposition, parce que si on lui met un exercice et assez long et qu'en fait il nous dit bon bah là il y a un théorème qui rentre en exercice trivial post-bac, je sais pas quoi, bac plus 10 quoi, bon, bah, je lui dis ok bah, merci, je suis bien avancé.
Oui, ok. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut l'entraîner.
C'est ça.
Il faut qu'il comprenne ce qu'il a le droit de faire et de pas faire. En fait, il doit comprendre que c'est un élève de prépa ECG quoi.
Exactement.
Et ça se fait un peu petit à petit. Mais enfin, on ne sait pas ce que ça va devenir bientôt, mais sans doute que dans un an, deux ans, il saura ce que c'est un élève de prépa ECG. Tu lui dis juste une fois, je suis en prépa ECG, et il sait absolument tout. Enfin, toi, tu as dû lui apprendre des choses que sans doute il aura apprises d'ici là, quoi. Ok, donc ça, c'est pour les maths. Et si tu peux rentrer un peu plus profondément sur les matières à dissertes, comment on s'en sert bien de ChatGPT? Comment on évite un peu la défaite de la pensée et on arrive à vraiment en faire un allié plutôt qu'un boulet qui te rend plus oisif qu'autre chose, quoi?
Ouais. Donc, je vais commencer par la géopo. La géopo, il y a plusieurs intérêts. Tout d'abord, ça peut nous aider à synthétiser parce que les cours sont quand même très volumineux. Surtout en deuxième année, nous, on peut avoir 600, 500 slides par chapitre. Donc là, ça commence à être très compliqué à afficher dans le temps imparti, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Et là, ça peut faire un travail le plus basique, je dirais, qui consiste simplement à un peu élaguer, à tailler dans le cours pour réduire un truc de 600 slides en 30 pages pour les écrits. Pas s'en remettre uniquement à ChatGPT, mais par exemple, quand on a de très longs articles, qui sont hyper intéressants, hein, du FT, du Grand Continent, etc. Bon, bah, c'est passionnant de les lire, mais la vérité, c'est qu'en deuxième année, il faut vraiment être dans une recherche de gain de temps et qu'on n'a juste pas le temps de les lire, aussi triste que ce soit.
Ouais.
Et donc, là, ne pas hésiter à lui dire de prendre un article qui fait 10 pages et d'en faire 10 lignes, quoi. Okay. Ensuite, il y a un travail qui peut être celui d'explication. Si on n'a pas compris tel ou tel point de cours, si c'est encore plus si c'est le cas chez nous et qu'on n'est pas en cours et qu'on ne peut pas poser directement la question au prof. Le troisième travail, je dirais, ça peut être sur du style pour disons, on peut. Moi, j'avais pas trop ce besoin, mais si on a un paragraphe qu'on a réalisé, par exemple, et qu'on veut simplement s'améliorer stylistiquement parlant, on peut tout à fait lui demander, et ce sera vraiment beaucoup mieux, quoi. Une fois qu'il sera passé là-dessus. Et enfin, le dernier moyen, je pense, d'utiliser ChatGPT en géopo. En tout cas, enfin, moi, c'est ceux que j'ai trouvés, mais on peut tout à fait en trouver d'autres. Hein. Je pense qu'il y a encore plein d'autres moyens. C'était pour les oraux ce coup-ci. Donc là, ça m'a demandé un vrai travail d'explication, de dissertation et de présentation orale. Mais pour les sujets qui, conceptuellement parlant, n'étaient pas trop difficiles, par exemple, je sais pas, le riz en Asie ou l'agriculture en France, et qui sont plutôt des sujets qui portent sur des connaissances où il va falloir un peu d'érudition. Si on n'a pas de corrigé sur un sujet niche mais qui nous fait peur et qui est davantage porté sur les connaissances, là on peut tout à fait, une fois qu'on a bien expliqué à ChatGPT ce en quoi consistait la disserte, lui demander de nous faire la dissertation, et ce sera vraiment de très bonne qualité. Il y a peut-être juste la problématique qui va être un peu trop scolaire, mais franchement c'est du détail.
Ouais, sur l'érudition par contre il saura te carrer, quoi. Sujets un peu niche, ouais, bien évidemment, quoi. Donc le lait en Inde, tous ces trucs qui,
exactement,
je crois, tombent un peu moins d'ailleurs maintenant aux oraux d'HEC, mais qui faisaient bien peur à l'époque. Ok pour les matières à disserte. Et du coup, pour les langues, tu disais que tu avais régressé pour finalement décrocher quand même 17. Moi, je trouve ça limite plus impressionnant d'avoir double 17 en langue que double 20 en maths, parce que les langues, c'est très dur de monter haut, je trouve. J'ai pas très bien compris, mais j'imagine que tu vas l'expliquer. Pourquoi tu dis que tu as régressé pour finalement révéler ton plein potentiel au moment des concours?
En première année, j'avais beaucoup travaillé les langues, ce qui fait que j'avais progressé. Et pendant les vacances d'été, j'ai assez vite compris que j'allais pas avoir ce temps à consacrer dans les langues. Parce qu'en fait, pour avoir un vocabulaire un peu fancy, etc., en anglais, des expressions, c'est pas franchement naturel. C'est un anglais un peu de prépa, et on le perd assez vite. C'est-à-dire que même si on a un bon niveau en anglais, on va vite retomber dans un anglais casual, ce qui fait qu'on va perdre quelques points en anglais.
Okay.
Et je m'étais dit que j'étais tout à fait prêt à consentir à ce sacrifice pendant l'année, parce que je voulais avoir davantage de temps pour travailler en maths. Donc j'ai complètement lâché les deux langues pendant la deuxième année de prépa.
Complètement, c'est quoi? C'est 0 heure par semaine?
Zéro heure par semaine, et je faisais de la géopo en cours de langue.
Ah oui, donc ok, nada quoi.
Nada.
Genre, tu réactivais nada. Même pas, t'es en qui, t'es je sais pas quoi.
Juste l'anki, c'est tout ce que je faisais.
Ok.
L'anki, parce que ça, bon, c'était une routine en fait, donc c'était pas désagréable. Mais en revanche, pendant les vacances d'été, donc j'avais répertorié toutes les erreurs d'une part que je faisais en un dossier erreur, et d'autre part j'avais compilé un certain nombre de mots, d'expressions que je voulais vraiment recaser en disserte. Ça pouvait être en allemand aussi, il y a des structures grammaticales, on va dire un peu chiadées, qui sont sympas à ressortir en écrit. Celles-ci, j'avais vraiment bien répertorié dans les deux langues. Et arrivé à la date des révisions, moi je m'étais pris 3 semaines, je n'avais pas passé CRICOM. Donc je voulais avoir ce temps-là pour réactiver mon niveau en langue, parce qu'en fait j'avais fait le calcul en me disant que en 3 semaines de langue, bon, plutôt intense, mais rien de dingue non plus, c'est-à-dire 1h30 par jour, j'allais pouvoir réactiver ce vocabulaire et ces expressions pour m'imprégner de ce niveau de langue assez soutenu. Et ce que j'ai fait là, c'est que j'ai beaucoup utilisé ChatGPT à ce moment-là, des révisions. Ce que je faisais, c'est que je voulais ne gommer totalement les erreurs un peu répétitives que j'avais tendance à commettre, et également m'entraîner à recaser toutes ces structures qui sont pas forcément évidentes à employer. Donc, la manière dont je procédais, c'est que je lui demandais des thèmes adaptés d'un article tiré en général du Monde, parce que c'était les articles qui tombaient le plus en thème, et qui ciblaient un événement, on va dire, de civilisationnel de la fenêtre à peu près février à juin de l'année précédente, okay. C'est-à-dire les articles susceptibles de tomber.
Oui.
Donc, il adaptait ces articles, et ce que je lui demandais de faire en particulier pour les adapter, c'était de cibler mes erreurs. Donc, quitte à modifier une phrase, il allait faire une phrase où j'étais susceptible de faire une erreur. Et également, je lui demandais de m'entraîner à recaser ses expressions. Donc, de tourner les phrases de manière à ce que je sois susceptible de pouvoir employer ces fameuses expressions que je voulais réutiliser, quitte à un tout petit peu détourner le texte d'origine, ce qui m'a permis de vraiment progresser de manière très sensible en langue et de mobiliser ces fameuses structures et ce fameux vocabulaire.
Ah ouais, mais c'est incroyable. En fait, tu t'es genre, c'est le futur des annales, quoi. T'as fait même pas des, enfin, t'as fait des annales du futur en quelque sorte.
C'est ça.
Tu lui as dit, ouais, là, voilà où je galère. Et fais-moi, ok, d'accord. Et donc, par exemple, ouais, enfin, je reviens sur les maths, mais le méga répertoire de maths qu'on a fait, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en servent. Toi, en fait, tu t'en es pas servi parce que l'IA pallié un peu ce truc-là.
Moi, je me suis pas servi du méga répertoire avec les fautes, etc. En revanche, je m'étais servi du répertoire qui classe toutes les annales. En
oui, c'est ça. Ouais, c'est ce dont je te parlais. Ouais.
Ah, c'est ce dont tu me parlais.
Oui, voilà,
c'est ça. Pour le coup, je m'en suis servi.
Okay.
Ça, je m'en suis servi. Dans la recherche d'annales, là, je l'ai pas trop confié à ChatGPT. Peut-être qu'on peut le faire, mais le répertoire était déjà très performant, je trouvais.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais on s'est chauffé. Enfin, ça nous a pris un temps. Enfin, d'ailleurs, je salue ceux qui s'en sont occupés. Mais ça nous a pris un temps absolument dingue. Et peut-être que dans quelques temps, ChatGPT le fera très, très bien, quoi. Mmh. OK. Et t'avais l'impression que, enfin, nous, on a fait une enquête auprès d'un millier de préparationnaires, je crois, sur l'usage, en fait, de l'IA. Mmh. Ce qui ressort beaucoup, c'est que beaucoup de gens s'en servent, mais assez sporadiquement. Et surtout en langue. Mmh. Mais peut-être pas toujours pour les meilleurs usages. Genre, je suis nul en allemand. La prof m'a demandé un thème. Bon, j'ai pas envie de le faire et je le fais sur ChatGPT, comme ça elle m'embête pas, quoi. Et donc, enfin, ce qu'on disait aussi, ça peut faire un peu peur aux profs. Toi, à Saint-Louis, t'avais l'impression qu'on te regardait comme le gars matrixé par ChatGPT, ou en fait tout le monde avait un usage assez poussé, on va dire, de l'outil.
Je pense que je faisais partie de ceux qui utilisaient le plus ChatGPT. Il y a pratiquement aucun doute là-dessus. Après, dans la classe, c'était assez polarisé. Il y avait beaucoup de gens qui utilisaient, mais peut-être pas suffisamment et pas de manière assez personnalisée. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait tout simplement pour faire notre devoir à notre place.
Ouais.
Mais par contre, il y en a qui ne l'utilisaient pas du tout.
Ok, ouais, il y en a qui étaient par conviction ou juste parce qu'ils se disaient « Ok, c'est pas utile ».
Je crois qu'il y en a qui l'avaient testé, mais qui n'avaient pas dû faire des prompts suffisamment précis, si bien que le rendu de ChatGPT était assez mauvais et donc j'imagine que ça les avait découragés.
Ça les a découragés et ils sont passés à autre chose. Ok. Et donc, outre ça, est-ce que les gens te regardaient un peu bizarre parce que t'avais des méthodes assez peu orthodoxes, genre typiquement le fait de faire zéro langue, je pense que je l'ai vu dans aucun manuel de conseil. Est-ce que t'étais un peu l'illuminé qui faisait pas comme disaient les profs ou pas tant que ça?
L'illuminé, non, je pense que
j'avais pas. C'est dur, j'avais pas d'autres mots.
Ouais, t'inquiète. Mais bon, oui, j'avais des méthodes peu orthodoxes. Après, les gens, ils disaient, bon, ok, il fait son truc, on verra bien, quoi. Mais c'est sûr, oui, c'était pas très orthodoxe. Hein. J'ai même pas mal séché aussi en culture G. Parce que là aussi j'ai beaucoup utilisé ChatGPT, ce qui fait que le seul moment de mes 2 ans où j'ai travaillé en CG, c'était pendant les vacances d'été. À part ça, j'ai pratiquement rien fait. J'ai dû faire 20% des cours en deuxième année. Et bon, on a des problèmes de prof aussi.
Mais donc, ouais, donc, en fait, t'as eu que 3 matières. Enfin, dans ton travail personnel, pendant l'immense majorité de ta prépa, t'avais 3 matières et demie, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est ça en fait. C'est que du coup, tu t'es focus à mort
sur les maths surtout. Sur les maths, j'ai bossé énormément. Parce que comparativement, j'ai un peu moins d'intuition que certains. J'ai compris que ça allait me demander un travail assez monstrueux en deuxième année. Et je voulais avoir ce temps pour faire des maths. Parce qu'en soi, je crois qu'en maths, il n'y a pas vraiment de cheat code en fait. Il y a assez peu de moyens de te mettre le coup de boost qui va faire que tu vas prendre plus de points juste avant les révisions. Mais en fait, c'est un travail constant.
De longue haleine.
Et de longue haleine, ouais.
Ouais, c'est ça. Puis je trouve surtout qu'au bout d'un moment, en fait, au début, tu vois un peu isolément les points du programme. Et petit à petit, tu prends de la hauteur et tu dis « Ah, mais ok, en fait, ça, c'est cohérent par rapport à ce qu'il m'a dit il y a 4 mois, le prof. » Et donc, ouais, c'est ça. Avant de prendre cette espèce de hauteur et en même temps d'être très fin quand on te demande un truc technique, ouais, il faut y consacrer du temps. Après, on peut plus ou moins bien bosser les maths et je pense que t'en es la preuve. Mais il n'y a pas de secret, au bout d'un moment, c'est faux de dire « Ouais, tu fais 2 heures de maths par jour, cours compris, et tu vas réussir. » D'ailleurs, c'était quoi un peu ton planning tant en termes de révision que pendant l'année, du coup, parce qu'il était, j'imagine, assez différent de la majorité.
Ouais.
À quoi ressemblait ton temps personnel en termes de découpage de matière, d'une part, et puis même, qu'est-ce que tu faisais? À quel point l'IA et Anki étaient omniprésents? Est-ce que tu faisais autre chose? Voilà, une journée type, on va dire, quand tu étais en prépa.
Une journée type, alors ça a pas mal varié au cours du temps parce que mes stratégies m'ont amené à travailler de manière assez différente, mais si on prend de septembre à janvier de deuxième année, donc ça commençait par à peu près 45 minutes, 50 minutes d'Anki, je le faisais en cours en général, hein. Toute matière comprise, ça allait, plus ça commence à devenir un peu dur, moi je sais qu'il y en a, ils avaient des trucs avec 200 cartes, etc., le truc qui durait 2 heures. Voilà, c'est dur de se motiver. Moi, 1 heure, ça me semblait ok, c'était vraiment pas dérangeant, c'est une routine à prendre, on peut même le faire dans le métro, enfin n'importe où en fait.
Okay.
Ensuite, en général, j'allais travailler la géopo dans pratiquement tous les cours, mis à part les maths. Donc là, j'avançais sur mon fichage. Ensuite, bah, si j'avais des maths, là, pour le coup, j'étais focus en cours, j'écoutais...
Okay, là, tu étais avec tout le monde et tu faisais en même temps que le prof, etc.
Là, je faisais en même temps que le prof.
Okay.
Et ensuite, en rentrant, que des maths.
Ça suppose quand même que tu fasses 5 heures de maths en taf personnel tous les jours. Donc, il faut quand même être psychologiquement très accroché pour ça. Est-ce que ça a été dur? Et du coup, dans ce bloc de 5 heures de maths, qu'est-ce que tu faisais? Et quand est-ce que tu as commencé aussi les annales? Puisque j'imagine qu'il y avait forcément une partie qui était consacrée à ça.
Donc ouais, effectivement, c'était dur, surtout, j'étais pas forcément un fan absolu des maths, on va dire, mais c'était la matière où il y avait vraiment une grosse valeur ajoutée à travailler chez soi, alors que pratiquement toutes les autres matières, je pouvais les travailler en cours. Et c'est pour ça, dans cette recherche vraiment de productivité, que je me disais que j'allais faire 5 heures de maths par jour. Après, ça correspondait aussi à mon niveau et mes niveaux dans chaque matière. Je sais que j'avais une faiblesse comparative, on va dire, en maths et que j'avais besoin de plus travailler. Donc, pour pas que ce soit trop horrible, effectivement, il fallait subdiviser parce que sinon, c'est quand même un peu dur. Donc, je commençais par le cours. Clairement, le plus important pour moi, c'était de bétonner le cours. Je rentrais dans Anki. Bon, ça, je pouvais le faire en cours aussi, mais en tout cas, vraiment, d'apprendre le cours parfaitement, de comprendre certaines démos qui peuvent être pertinentes, de savoir les refaire si jamais c'est des résultats qu'il faut savoir redémontrer rapidement. Je parle d'encadrement de Rayleigh, par exemple, ou des trucs comme ça. Ensuite, une fois que j'avais fini le cours, je faisais le TD de mon prof. Moi, il était vraiment très complet. Gros big up aussi à mon prof de maths. Il était très chaud. Merci, monsieur Fiska. En dehors du TD, j'avais pas grand chose d'autre à faire parce qu'il était vraiment, vraiment bien. Donc, pendant toute la période septembre, janvier, je faisais que du TD et du cours. Moi, je trouvais que ça allait. Bon, c'est pas mal, 5 heures, mais les exercices, il y a une certaine forme de jeu, si jamais on comprend bien, et ça peut être sympa à faire, c'est moins astreignant que de réviser 5 heures d'affilée un cours de géopo, par exemple, je trouve, en tout cas.
Okay.
Et j'ai commencé les annales en février. Et là, j'étais blindé à peu près sur le cours également de première année, parce que le cours de première année, je l'avais révisé en entier pendant les vacances d'été. J'ai fait au total peut-être 40-50 annales, un truc comme ça, principalement des annales matin, maths 2. Et voilà, j'étais en condition concours, donc je prenais 4 heures pour faire l'annale, pas une minute de plus. Si je m'entraînais à gratter des points, et si la partie 3 était extrêmement exotique dans la correction, j'allais vraiment pas la regarder, j'allais uniquement regarder ce que j'avais fait et pas chercher à comprendre un truc qui ne retombera dans tous les cas jamais.
Oui, c'est ça. Et puis, encore une fois, ce qu'il faut rappeler, et ça, il faut bien avoir en tête, c'est que le 20 en maths 1, il se situe entre 40 et 60% du sujet en maths pro. Donc, en fait, à partir du moment où tu as gratté les points qu'il fallait pour avoir, entre guillemets, seulement 20 et pas 27 sur 20, ça suffit, quoi. Ouais, clairement. Et donc, il y a des parties 3, je sais, où c'est n'importe quoi, ça part complètement en vrille. Enfin, en vrai, il y a peut-être 2% des mecs qui font ça et basta, quoi.
Ouais.
Et encore, je suis gentil. OK. Donc ça c'est assez clair. Et du coup là, enfin dans la reprise des annales, l'IA t'aidait ou pas du tout?
Alors quand même j'essaie de sélectionner des annales où il y avait une bonne correction et pas le truc écrit en gothique en taille en taille à 10 de des années 2000. Mais s'il y avait un point que j'avais pas compris en particulier, là tout à fait ouais, je demandais de m'expliquer ce point en détail et voilà, elle était très très performante.
OK. Et du coup, ouais, ce que je voulais te demander plus généralement, c'est comment tu, est-ce que tu as déjà un peu envisagé le futur de cet outil-là, puisque tu l'as vu, enfin, tu as vu l'IA se perfectionner au cours de tes 2 années de prépa. Est-ce que tu vois un peu encore des limites qui pourraient être soulevées dans les années à venir et qui fait que l'IA de, enfin, je parle vraiment strictement dans le point de vue d'un préparationnaire, hein, mais l'IA de 2026, 2027, 2028 peut être encore plus efficiente pour aider les étudiants.
Les limites à lever, en un sens, elles concernent les sources. Parce que parfois, étant donné que l'IA va prendre du contenu sur Internet, si elle va sur les mauvaises sources, clairement, on va avoir du mauvais contenu, pas de secret. Même si on peut déjà pallier cette difficulté en lui disant de sourcer et de s'intéresser qu'à certains types de contenus, en précisant par exemple les sources qu'on veut qu'elle utilise. Comme autre limite, il y a les hallucinations, mais qui sont vraiment de plus en plus rares. Mais c'est un danger qu'on peut voir parfois quand on lui demande des citations, par exemple. Bon, bah là, ça pouvait lui arriver d'entendre des voix.
Okay.
Et en ce qui concerne les erreurs, c'est vraiment de plus en plus rare, même en maths. C'est vraiment choquant. Mais elle peut commencer à faire une démonstration, se rendre compte qu'elle va prouver une absurdité ou que la preuve n'a pas été juste et modifier en cours de prompt la preuve et tout recommencer à zéro ou recommencer à l'étape où ça a chopé.
Okay.
Et je pense que le futur de l'IA, même si bon, c'est assez dur d'envisager hein, parce que ça se développe à une vitesse déjà tellement rapide et ça pourrait être encore plus rapide après, mais concrètement ça pourrait être une sorte de super prof particulier, en tout cas dans le domaine de l'éducation, hein, une sorte de super prof particulier qui ne ferait plus d'erreurs, qui serait très rentable comparé à ce que peuvent coûter des cours avec des profs particuliers et excellente dans toutes les matières en fait. Plus de limites ou en maths, c'est un peu difficile. Je pense que dans 1 ou 2 ans, il y aura plus de problèmes.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça permettra encore mieux de pallier le prof particulier, mais pas forcément le prof tout court.
Non, pas le prof.
Parce que, ouais, c'est ça. T'as quand même besoin à un moment d'avoir un cours qui est dense, qui est actualisé, et qu'une IA, même aussi perfectionnée soit-elle, peut pas produire comme ça avec Snilo juste avec les ressources, quoi.
Bah, bien sûr, surtout en termes de liens, c'est vraiment important d'être en cours, d'avoir un prof qui nous explique, etc. Je pense que là, l'IA ne... En tout cas, j'ai du mal à la concevoir, qu'elle puisse avoir l'expérience d'un prof qui a corrigé autant de copies, qui sait quelles sont les erreurs récurrentes, quels sont vraiment les points sur lesquels il va devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie, sur lesquels il va insister. Et grosso modo, en ce qui concerne les attendus, la méthodologie, etc., le travail des profs ne peut pas être remplacé. Je pense que c'est pour le travail personnel que c'est extrêmement utile.
Ok. On peut faire peut-être un dernier focus. Je t'avais posé la question, mais c'est mon erreur. Je te pose des 3 questions en une chaque fois. Mais comment s'est passé d'une part tes révisions, d'autre part tes concours? Donc, qu'est-ce que tu as fait vraiment pendant les 2 semaines où tu es totalement lâché dans la nature? Je crois que c'est 2 semaines ou 3 semaines pour vous en tout cas.
En révision.
En révision pure.
Moi, c'était 3 semaines et demie.
Oui, parce que t'as pas fait écrit.
Ouais.
Ok. Donc, bon, on va dire que ça dépend de ce que tu as fait.
Ça dépend de 2 semaines et demie, 3 semaines. Quoi.
Et est-ce que donc. Bah, tu vas sans doute me dire oui, mais est-ce que rétrospectivement, tu penses que c'était une bonne chose de boycotter Écricom? Et comment t'as vécu du coup tes concours? Est-ce que tu t'as senti quand même que il y avait un truc, tu t'es pas trop mal débrouillé quoi? Est-ce que t'es arrivé à le percevoir? Donc ouais, commençons par les révisions, ouais. Comme ça au moins c'est...
On va commencer par les révisions. Donc j'ai fait exprès de me dégager du temps parce qu'avec mes stratégies, j'avais besoin de pas mal de temps, par exemple pour apprendre les trucs en langue et également des paragraphes en CG, même si j'avais commencé à le faire. En plus de ça, je voulais avoir ce temps pour vraiment faire de gros progrès et tout en me consacrant 3 jours à la fin pour vraiment me reposer ce coup-ci et essayer de me détendre le plus possible. J'étais parti chez mes grands-parents, hein, que je remercie à cette occasion. Ils se sont bien occupés de moi.
J'ai fait la logistique, ouais, t'as pas fait la vaisselle pendant 3 semaines quand même.
J'étais parti avec un pote aussi.
Okay.
Donc pendant 3 semaines et demie. En ce qui concerne Écricom, bon, rétrospectivement, ouais, effectivement, je vais dire que je suis content de pas l'avoir passé. Après, ça dépend vraiment du profil, etc. S'il y a un besoin de se rassurer, de se tester en conditions réelles que vous ressentez, bon, bah, n'hésitez pas. Je pense que c'est pas qu'un entraînement en plus. Hein, ça dépend complètement du profil. Si on vise HEC et qu'on a un niveau HEC, là, effectivement, on va plus y aller dans une optique d'entraînement, mais ça peut être utile. Après, moi, je ne ressentais pas ce besoin de me tester en conditions réelles et je jugeais que la fatigue occasionnée et le temps que j'allais perdre en les passant n'était pas rentable et je préférais travailler chez moi. Après, bon, ça dépend vraiment des profils, c'est une décision qui vous appartient.
Hein. Ok, et t'as pas eu besoin de cette espèce de répétition générale avant la BCE, surtout que la BCE s'est vachement contractée ces dernières années, il y a de moins en moins d'épreuves. Mmh. Donc en fait, tu joues un peu ta vie sur chaque épreuve.
Ouais, ça c'est vrai, je l'ai ressenti. Mine de rien, la journée où j'ai le moins bien réussi, c'était la première. Donc j'ai peut-être eu un petit temps de démarrage. Après, rien de grave, enfin, il n'y a pas eu de catastrophe non plus, mais... c'est sûr qu'il faut être à fond pendant l'épreuve de la BCE. Moi, j'avais un peu cette mentalité de guerrier. Et aussi le fait que je ne savais pas si j'allais pouvoir la mobiliser aussi longtemps. Et je trouvais ça dommage d'aller à Écricom dans une mentalité un peu DS où je me dis « bon bah j'y vais, mais c'est juste pour m'entraîner ». Et j'étais même pas sûr de prendre le truc suffisamment au sérieux pour que ce soit vraiment utile, en fait.
Ok, okay, donc ça a été plutôt rétrospectivement un bon choix. Mais ça, même, tu vois, dans les grosses prépas, Ginette, par exemple, ils leur disent de passer Écricom. Mmh. Enfin, il y a deux écoles, en tout cas, de ce point de vue-là. Mmh. Et puis, ça concerne une poignée d'étudiants qui sont quasiment sûrs d'avoir les parisiennes.
Oui, oui, oui.
Franchement, il n'y a pas grand monde parmi les candidats qui sont certains de ne pas avoir besoin d'Écricom en termes de résultats et d'école, quoi.
Clairement, oui. Il vaut mieux prendre la sécurité, je pense. Hein.
Oui, c'est vrai. Bon, après, toi, ça t'a plutôt bien réussi, encore une fois. Ok. Et donc, ouais, sur les épreuves, tu as senti que tu avais moins bien réussi la première journée. Et après, je sais pas, les matchs, j'imagine que tu sentais bien que ça allait bien se passer. Enfin, que ça se passait bien.
Et écoute, pas tant que ça.
Ah ouais?
Ouais. La matin, j'avais vraiment.
Mais la matin était horrible aussi.
La matin était horrible. Ça, je le savais, que ça allait être le cas pour tout le monde, etc., en la faisant. Mais mine de rien, j'étais pas tout à fait satisfait de ce que j'avais produit. J'avais gratté, mais je sentais que j'aurais pu faire mieux. Enfin, ça, le truc m'a un peu hanté, alors que vraiment, on s'était mis une règle, c'était de pas parler des épreuves après.
Ouais.
Et de pas y réfléchir. Le truc, j'avais résolu des questions de tête. Après l'épreuve le soir, j'avais pas à dormir,
ouais.
J'avais pas un bon ressenti sur le truc. Et bon, en fait, j'ai eu 20, mais bon, comme quoi le ressenti veut vraiment rien dire. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de proportions en fait du sujet pour avoir la note suprême. Quoi.
Ok, ouais, t'as eu que 22 et pas 27.
C'est
sur
ça,
20,
c'est ça.
Ouais, ok, d'accord. Et tu regardais pas, ouais, Frédéric qui débriefe le sujet de GeoPoSCP, c'est niette, tu regardais
ça,
pas.
Je pense que c'est le pire truc à faire parce que il faut vraiment faire tabula rasa après chaque épreuve, se concentrer sur ce qui vient, quitte à faire un travail de visualisation si ça peut aider certains, et complètement laisser derrière nous ce qui s'est passé, surtout si ça s'est mal passé.
Ouais, parce que je pense que c'est tout à fait vrai pour ton profil où tu sais ce que tu fais, t'es sûr de toi, t'as une certaine maturité. Et enfin, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça peut aider dans le sens, ok, ça me rassure. Genre, tu vois, il y a plein de gens qui ont un peu un espèce de syndrome de l'imposteur et qui se disent, mais attends, mais ça se trouve, j'écris mais n'importe quoi en fait, tu vois. Alors qu'ils sont sûrs de leur connaissance, mais le fait d'avoir un prof qui te dit, ça s'est bien passé, si vous avez écrit ça, a priori, ça va le faire. Il y a des gens que ça rassure, je pense. Enfin, tu vois, sinon, nous, on le ferait pas non plus, mais je suis d'accord que ça dépend vraiment des profils. Ça dépend vraiment de... Il y a des gens qui gèrent plus ou moins la pression des concours, qui sont plus ou moins sereins vis-à-vis des compétences et des connaissances qu'ils ont pu acquérir pendant 2 ans. Mais donc, oui, je comprends totalement que toi, c'était pas ton sujet. Et quoique, tu vois, genre, ça t'a quand même un peu hanté.
Ouais.
Donc, bon.
Je peux comprendre ce truc de regarder. Après, pour moi, le piège, ce serait de se dire, bon, en fait, il a dit autre chose, complètement autre chose, et ça viendrait pas pour autant infirmer ce qu'on a dit. C'est pas parce que Monsieur Muni a fait un autre plan que le nôtre n'est pas valable. Et
ouais.
En soi, il y a quand même un risque non négligeable que ce soit le cas. Et il faudrait pas se dire, bon bah en fait, du coup j'ai foiré. Maintenant, de toute façon,
c'est mort, etc.
Ouais, ce serait vraiment dommage.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que nous on prend beaucoup de pincettes et qu'on dit que c'est une proposition parmi d'autres. Enfin, bon, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Une autre question que je voulais te poser, c'est, du coup, toi, t'as vraiment hyper intellectualisé la méta des concours. Tu vois, genre, en fait, tu faisais exactement ce qu'il fallait dans cette optique-là. Est-ce que, du coup, tu as l'impression d'être, dans l'absolu, dans les différentes matières, un peu moins fort qu'un mec qui a juste travaillé très dur, mais en fait, qui ne réfléchissait pas trop au concours? Ou non, bah, en vrai, tu as tiré ce que tu voulais intellectuellement de la prépa et tu es très content. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit, cette question-là?
La question m'a traversé l'esprit. Après, moi, j'étais vraiment dans une optique rationnelle, quitte à ne pas creuser un certain point en deuxième année, en tout cas. Pour moi, il y a une grosse diff entre la première et la deuxième année, quand même. Mais j'étais OK avec ça. Je me disais que bon bah l'objectif, c'était le concours. Si j'étais là, c'était pour ça. Et oui, effectivement, je pense que j'étais moins bon que certaines personnes académiquement, au global, hein, mais que malgré tout, ces stratégies que j'ai pu mettre en place ont fait que le jour J, le jour du concours, bon bah en fait, j'ai un peu surperformé aussi, je pense, mais j'ai réussi à les dépasser. Et en vrai, j'étais OK avec ça. Je considérais pas que c'était de la triche, parce qu'en soi, comprendre vraiment les attendus en détail, modeler un peu ses stratégies, il y a un intérêt aussi.
Oui, c'est ça, totalement. En fait, c'est plus utile dans la vraie vie de te dire qu'est-ce qu'on attend de moi exactement et voilà la stratégie optimale pour y parvenir, que de savoir par cœur tous les moindres méandres du programme, voire du hors-programme de maths. Enfin, en tout cas pour les métiers qu'on va faire plus tard, a priori, ce qu'on me disait en rigolant, l'algèbre linéaire... Bon,
c'est ça.
Pas sûr que ça serve de ouf dans les années à venir. Enfin, en tout cas, pas des profils HEC, je sais pas. Tu sais ce que tu vas faire d'ailleurs après ?
J'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat en école, de créer ma boîte. Franchement, ce serait mon objectif. L'IA m'intéresse pas mal. Je compte aussi lancer une formation IA à la rentrée pour mettre à disposition donc des vidéos matière par matière qui permettraient d'intégrer l'IA dans sa prépa sans perdre du temps et dans cette intégration tout en faisant des gains de productivité assez considérables en partageant mon expérience qui je pense a de la valeur parce que j'ai un peu appris en autodidacte à m'en servir et donc mine de rien j'ai perdu du temps mais en mettant ces fiches à disposition ça permettrait de faire des progrès à vitesse grand V même en deuxième année c'est pas du tout trop tard pour intégrer.
Ouais, c'est clair. Et ce que je disais justement c'est que le prérequis pour ta stratégie c'est d'avoir une en tout cas ce que tu as fait toi parce que tu as découvert, tu as défriché un peu le truc. Ça demande énormément de maturité, de confiance en soi, de dire bah je préfère, je suis plus efficace de mon côté que en écoutant le prof ou enfin tu vois c'est faut il y a beaucoup de gens qui écoutent les profs aussi parce que c'est confortable d'une certaine manière. Là tu vois tu t'es dit non, je enfin c'est pas que je perds du temps mais je pourrais aller encore plus vite en faisant autrement. Donc ça demande beaucoup de maturité et ça demande une motivation de ouf aussi. Tu vois quand tu dis les maths c'est pas mon méga délire et que tu t'envoies 5 heures de maths tous les jours, y compris en novembre quand le soleil se couche à 17h30 et tout. Donc pour toi c'était quoi le vrai moteur derrière? Est-ce que c'était le défi d'avoir HEC, le fait que tu te dises que ta vie sera 100 fois mieux si t'as HEC plutôt qu'une autre école? Enfin, qu'est-ce qui au fond t'a donné une dalle pareille pour réussir à bosser comme ça?
En première année, il n'y avait pas uniquement le fait de l'école, parce que je prenais un vrai plaisir à voir que je progressais dans plein de matières, que je me forgeais un peu une certaine culture générale. Après, en deuxième année, le moteur, c'était un peu la lumière au bout du tunnel, c'était l'école de commerce, se dire, moi je visais HEC, je suis prêt à tout donner pendant 2 ans. Si je fais un sacrifice maintenant, ce sera pas pour rien. Donc, si tu passes 2 ans en prépa, il faut être prêt à tout donner pour n'avoir aucun regret. Ma hantise, c'était de quitter la prépa en me disant que j'ai des regrets parce que j'ai pas assez travaillé. Et ça, j'étais pas prêt à l'accepter. Je me disais que j'allais tout donner pendant 2 ans. Quelle que soit l'école que j'allais avoir, j'allais y aller parce que je considérais que ça correspondait à mon niveau le jour J. Et pour avoir cette dalle, effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler des opportunités qu'offrent les grandes écoles, mais c'est pas uniquement HEC, jusque dans le top 10, c'est excellent, quoi. Même quand on dézoome un tout petit peu et qu'on reprend au niveau international, les opportunités qu'offrent ces écoles, c'est absolument dingue. Et moi, je voulais vraiment en profiter, quoi. C'est ce qui m'a motivé depuis le lycée pour faire une prépa.
Ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que tu dis pas ça en prépa parce que juste t'es hyper matrixé par les concours et quelque part, heureusement, parce que c'est ce qui permet de te donner à fond, mais le top 15 des écoles de commerce post-prépa et sont dans le top 1% des business schools dans le monde. Donc, c'est quand même dingue de juste te dire ça. C'était à peu près tout ce que je voulais te demander. Peut-être une dernière chose. Qu'est-ce que t'aimerais dire, si tu prends la question comme tu veux, soit à un étudiant qui va rentrer en classe préparatoire là d'ici quelques semaines, ou au petit François d'il y a 2 ans qui sortait de son verre avec Muni et qui se disait « Ouais, quand même, ça a l'air bien Saint-Louis, je vais d'être ça et tout. » Qu'est-ce que t'aimerais lui dire et qu'est-ce que tu changerais ou pas d'ailleurs ?
Ce que j'aimerais lui dire, je pense, c'est que ça va être dur, clairement, il faut s'y préparer, mais que c'est une très belle expérience, la classe prépa, qu'on prend en maturité, que ça nous inculque des valeurs de résilience, d'organisation, d'anticipation qui sont vraiment rares et qui vont nous apporter énormément, bien plus je pense que ne pourraient le faire d'autres filières moins exigeantes. Et donc mon conseil ce serait de s'accrocher, mais que le résultat en vaut 1000 fois la peine.
Je pense que c'est pas mal comme conclusion. Merci beaucoup François.
Merci beaucoup.